5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Bienvenue à toutes et à tous dans l'Auberge espagnole de ce 12 février de l'an de grâce 2013. On aura dans l'ordre ou dans le désordre, selon s'il arrive à nous rejoindre à temps, Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie pour parler du café climat de ce soir. Un café climat qui va vous aider à visualiser les fuites d'air dans votre logement. L'Agence locale de l'énergie organisera in situ dans ses locaux un dépistage des pertes de chaleur avec une caméra thermique. Eh bien, il viendra nous en parler. Ensuite, c'est Anthony Binst qui sera avec nous. Il est le responsable communication du Salon des métiers, des professionnels et de l'écologie 2013 qui se déroule du 14 au 16 février, cette semaine donc à l'université Montpellier 2. Ensuite, on parlera eh bien, d'un tremplin organisé par les étudiants. C'est Alice Franck et Jean-Bernard Louis qui viendront nous parler de ce tremplin à destination bien des groupes dont au moins un des membres est étudiants. Et puis pour terminer, c'est Yves Bobby Bomnel qui viendra nous parler de l'édition 2013 du Festival à 100% qui démarre ce soir.
Give me some more, baby.
If you want it, you know you got it. Once you start it, just don't stop it.
Ride the rockets with the hips to hop it.
Take that bottle and shake, 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 shake. Shake what your mama gave you. I'll be a baker, she's a money maker. I'll be yours, come on, be my Quaker. Show me some goodness, shake, yeah.
Les excellents Mister Valère, groupe québécois qui déchire, que vous pourrez trouver sur mv.mu. C'est le nom de domaine le plus court que j'ai jamais vu. Tout de suite, la suite.
Les 14, 15 et 16 février 2013, le Salon des métiers et professionnels de l'écologie vous attend à l'Université Montpellier 2. Depuis 4 éditions, le SMPE a su s'imposer comme un événement de premier ordre pour découvrir le monde professionnel de l'écologie. Cette année, l'actualité économique et le constat des problèmes environnementaux toujours croissants amènent sur le devant de la scène un sujet de plus en plus évoqué, la valorisation de la biodiversité. La cinquième édition du Salon des métiers et des professionnels de l'écologie, www.salon-smpe.com. What a
Et nous accueillons Anthony Binst, bonjour.
Bonjour.
C'est bien comme ça qu'on dit, Binst.
C'est ça.
Alors, tu es le responsable communication pour cette édition 2013 du Salon des métiers et des professionnels de l'écologie, qui a réuni l'an passé, je crois, 2000 visiteurs, c'est ça, sur 3 jours?
Oui, l'année passée, on a eu 2000 visiteurs, une moyenne de 300 personnes sur les journées et un peu plus le soir.
Mmh. Alors, comme son nom l'indique, hein, c'est un salon à destination, on va dire, des étudiants qui cherchent un débouché dans les métiers de l'environnement et de l'écologie. On va dire que c'est un secteur où il y en a des débouchés actuellement.
Oui, il y en a des débouchés, il y a du travail. En 2009, 20 000 postes en écologie ont été proposés. Donc c'est vraiment des métiers d'avenir et une discipline qui reste assez méconnue, mais qui pourtant a vraiment beaucoup à envier à d'autres disciplines comme le commerce ou encore la communication.
Ou encore l'informatique qui est aussi un secteur...
Bon, l'informatique, il est pas égalable. Je crois qu'en ce moment, l'informatique, c'est le top.
Voilà. Mais par contre, on recherche des développeurs en logiciel libre. Donc, amis étudiants en informatique, pensez-y. Vous trouverez sans doute plus de boulot dans les logiciels libres que dans les logiciels propriétaires. Mais ça, c'est un petit peu de lobbyisme divergent. Ce salon démarre donc pour 3 jours. Eh bien, ça démarre après-demain, si bien
c'est ça, ça démarre le jeudi 14 à 9h sur le campus de l'Université de Montpellier 2.
Les journées de jeudi et vendredi sont consacrées à des journées scientifiques et techniques avec conférences, tables rondes de chercheurs et de professionnels autour du thème de la valorisation de la biodiversité qui est le thème majeur de cette année.
Alors c'est le thème majeur, mais c'est pas forcément compris par tous. Alors valorisation de la biodiversité, c'est un terme un peu compliqué qui signifie en fait comment on peut réussir à donner en mettant une valeur sur la nature, à réussir finalement à la protéger. Je m'explique. Par exemple, si un arbre il vaut demain 1000 euros, est-ce que ça nous aidera à le protéger plutôt que s'il n'a pas de prix et que dans ce cas-là, si on l'abat, il n'y a aucune répercussion.
À ne pas confondre avec justement le. C'est le même discours qui est utilisé aussi par des multinationales pour dire, par exemple Nestlé, pour parler de l'eau potable, qui disent ah ben nous, il faut qu'on donne un coup à ça, qu'on protège, qu'on prend tout et puis on vous assure qu'on protégera les ressources. Là, il faut.
C'est pas exactement. Effectivement, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment dans des mesures d'argent symbolique qui permettraient une protection. On n'est pas effectivement dans du lobbyisme où on cherche à donner des valeurs à tout pour que derrière on se fasse un maximum de profit. On est bien d'accord.
Donc la journée d'ouverture du salon permettra d'aborder pas mal de sujets autour de cette problématique, valoriser donc à travers le retour d'expérience des professionnels, quels outils pour valoriser la biodiversité vers une monétarisation de la nature, point d'interrogation, avec cette année pas mal aussi de têtes d'affiche comme on dit dans les festivals.
Alors oui, sur les journées scientifiques, on a notamment Bernard Chevassieu-Louis qui viendra nous parler de l'approche économique de la biodiversité. C'est quelqu'un de vraiment passionnant et vraiment de réputé dans son domaine. Il a notamment été président du Muséum d'Histoire Naturelle. On a aussi, cette journée du jeudi est pas mal tournée vers l'étranger. Donc on va avoir la valorisation de la biodiversité à l'international. En gros, comment les autres pays ou d'autres villes réussissent à protéger la biodiversité et est-ce qu'on doit s'en inspirer?
Donc il y aura notamment donc Jacques Deschamps, Bernard Chevassu, puis après la pause de 10h15 des retours d'expérience avec Yann Le Goff, Thibaut Rodriguez et Carole Vuillot, ou encore Frédéric Nègre, jusqu'à une table ronde qui aura lieu à 12h10 animée par un des membres de l'AFIE. C'est quoi l'AFIE?
L'Association française des ingénieurs écologues.
D'accord, sur des retours d'expérience, toujours sur ces questions-là. Et puis l'après-midi, ce sera consacré donc à l'international. On parlera de la forêt amazonienne avec Florence Pinton à 15h, à 15h25, Alain Carsenti pour les paiements pour services environnementaux. À 15h50, Patrice Longour pour une présentation du statut de producteur de nature. À 16h15, une conférence de Daniel Réhart et Marie Deguillon, présentation du Labintex et d'un projet de paiement pour services environnementaux en Argentine. Donc partout sur la planète, ces questions-là mobilise chercheurs, décideurs, acteurs locaux.
On a beaucoup de personnes qui viennent effectivement de partout dans la France, mais il faut dire qu'à Montpellier, on a vraiment un pôle de biodiversité, un pôle de spécialistes qui est assez surprenant. Donc du coup, finalement, on a quand même pas mal de locaux qui viennent nous parler de ça et qui viennent permettre le dialogue entre chercheurs, entre professionnels, qui n'est pas toujours possible chacun de son côté. Donc c'est le salon, c'est aussi ce but-là, rassembler les professionnels et permettre d'échanger, de faire avancer la cause et l'écologie.
Et puis on précise que pour jeudi et vendredi, il y aura aussi des choses en soirée qui se déroulent sur le campus de l'Université Montpellier 2 au bâtiment 7 à l'amphithéâtre du Montet. Là, c'est pour permettre justement à la fois au public et à ceux qui sont intervenus dans la journée de peut-être pouvoir se croiser et échanger dans un cadre moins formel que les conférences et tout ça.
C'est ça. Initiés et non initiés pourront se retrouver pour ces grandes soirées. Donc le jeudi soir 20h30, valorisation de la biodiversité en ville avec la mairie de Montpellier. Directement, l'élu Jacques Touchon, élu à la biodiversité, viendra nous en parler. Et le vendredi à 21h, c'est une conférence passionnante de Gilles Boeuf, l'eau dans la biodiversité. Gilles Boeuf, qui est le président actuel du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Qui est le président d'honneur du salon cette année, il me semble.
C'est ça, le parrain.
Voilà, le parrain, voilà. Et puis, donc, vendredi, c'est Clémentine Azam, présidente de l'ASMPE, qui est l'association organisatrice de ces rencontres, chef de projet pour le salon. Et puis, après son discours, ce sera Cyril Pribila, qui parlera de valorisation des rejets aquacoles pour une culture d'algues marines vers une aquaculture durable multitrophique. Ça sera à 9h05. 25 minutes plus tard, c'est Sylvain Pioche qui parlera des récifs artificiels. Quels outils de développement de la bande côtière en ces temps où on voit la grande barrière de corail en Australie dépérir à petit feu, lentement, mais sûrement. Un débat aura lieu à 9h55. Et puis, valorisation récréative. Alors ça, c'est intéressant. Biodiversité, chasse et gastronomie, avec des conférence de Patrice Longour sur la réhabilitation de la grande faune européenne. Conférence de Laurent Courbois à 10h55. Dégustation de viande sauvage avec l'association Umbaba. On peut réserver son repas sur le site.
Alors ça, c'est très intéressant. C'est la dégustation vraiment de la viande de chasse. Donc l'association Umbaba vient nous présenter ces mets qui apparemment, et ils vont nous le prouver, ils vont nous en parler, ne nuit pas du tout à l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et même beaucoup plus écologique que la viande de supermarché.
Puisque c'est vrai que quand les chasseurs font leur activité proprement et consciencieusement, ils ont un rôle important pour réguler les populations d'animaux, etc. Bon, quand ils font n'importe quoi et qu'ils croisent des cochons avec des sangliers pour qu'on soit envahi de cochons grillés partout,
on connaît bien ce problème dans les Cévennes, effectivement.
Voilà, merci pour les motards qui se les prennent en pleine poire. enfin bon, voilà, il faudrait peut-être insuffler un peu de raison dans ces gens qui se lèvent à 5h du matin pour boire du pastis et armer les fusils. Non, j'ai rien dit. Et puis, à 14h30 ce vendredi, sera Carole Saint-Glas qui parlera d'agir pour le maintien de la biodiversité sur son territoire, un cas concret en viticulture.
Voilà, on fait la jonction avec les chasseurs directement.
Ouais, tout à fait. Conférence de Benoît Berlot et Florian Barallon à 15h sur l'agroécologie, comment mieux gérer la biodiversité dans les systèmes agricoles. Et c'est vrai que là, il y a du boulot. Il n'y a qu'à voir les problèmes de perturbations endocriniennes créées par les produits qu'on appelle... on va dire pudiquement phytosanitaire. L'après-midi à 15h50, c'est Francis Leriche qui parlera de la biodiversité, une valeur essentielle et vitale pour notre santé. Alain Reynaud à 16h20 pour les cueillettes aujourd'hui, anachronisme ou utopie réaliste. Et puis une table ronde sur la santé, l'alimentation et l'agroécologie animée par Gilles Boeuf, ce sera à 17h. Et puis en fin de journée ce vendredi, ce sera la remise des prix de la Banque Populaire Sud, diffusion de mini-films sur chaque association, un prix qui récompense une association pour son action.
Alors c'est un prix qui a été initié par la Banque Populaire du Sud déjà 8 ans, et en fait ça récompense les associations qui œuvrent pour la biodiversité, pour l'environnement, et on a décidé de les coupler cette année au SMPE car ça allait complètement dans notre sens. Donc du coup on va avoir toutes ces associations qui vont nous présenter leurs actions, des petits films, et on va avoir le lauréat du concours PIR, donc de la Banque Populaire du Sud.
Ce samedi, pour refermer cette 5e édition du Salon des métiers professionnels de l'écologie, ce sera le rendez-vous pour les étudiants avec présentation des diverses formations, du job dating. Donc là, c'est le rendez-vous à ne pas rater pour tous ceux qui veulent concrétiser, transformer l'essai.
Alors, le job dating, il est particulièrement intéressant pour les personnes qui sont en licence 3 ou en M1 qui cherchent un apprentissage en écologie. Et derrière, ils vont pouvoir donc rencontrer des entreprises et pouvoir candidater directement auprès d'elles et se renseigner sur les modalités de l'inscription en M2 apprentissage, qui est le seul en écologie à Montpellier, c'est le M2 IEGB.
Des secteurs qui, j'imagine, trouvent des débouchés dans le privé, mais aussi dans le public, puisqu'on sait que les collectivités locales et territoriales recherchent des gens pour gérer ces questions d'environnement.
Exactement, et même plus après en bac plus 8, avec une thèse, on peut aller dans la recherche et dans aussi de nombreux groupes de recherche, IRD ou encore le CNRS, qui sont des domaines publics.
On retrouve évidemment toutes ces informations sur www.salon-smpe.com. Tout est détaillé, donc tout y est, allez-y. On va te remercier, Anthony, d'être venu nous parler de tout ça. On vous souhaite bien de l'endurance sur les 3 jours à venir, à partir de jeudi.
Voilà, et à noter évidemment le samedi soir à 18h30, la conférence d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO et un présentateur phare en radio qui viendra nous parler des 100 ans de cette protection des oiseaux. Et à noter que toute la journée, donc, vous pourrez dans un chapiteau marcher, vous promener autour de professionnels, des formations, parce que la journée est couplée avec les journées portes ouvertes de l'Université de Montpellier 2.
Voilà, merci beaucoup. C'est du 14 au 16 février à l'UM2. Et voilà, très bon salon, très bonne 5e édition. Au revoir. Deep Waters Won't Scare Me Tonight. Non, nous n'aurons pas peur des eaux profondes ce soir. C'est Portishead qui nous chantait ce mini-titre. C'est pas des fuites d'eau qui vont être visées ce soir dans le cadre du Café Climat, mais bien les fuites d'air. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas Catin, l'agence locale de l'énergie, pour ce 26e, si je ne m'abuse, Café Climat.
C'est ça.
C'est bien ça. Visualiser les fuites d'air avec une mise en pratique in situ ce soir.
Voilà, on va se livrer en pâture, entre guillemets, à un test d'étanchéité à l'air, effectivement, sur les locaux de l'Agence locale de l'énergie.
Alors tout ça dans le cadre d'une loi qui, depuis le 1er janvier 2013, veut que tous les logements neufs soient construits selon les critères de basse consommation. Une réglementation thermique qui date elle-même de 2012. Et les tests d'étanchéité à l'air seront désormais obligatoires pour les maisons individuelles. En plus des techniques pour moins consommer d'énergie, il existe un panel de solutions simples et efficaces à connaître pour limiter les entrées d'air parasites. Donc y a un cadre légal qui pousse un petit peu tout ça aussi.
Alors effectivement depuis le 1er janvier 2013, donc il y a une réglementation qui s'appelle la RT 2012, réglementation thermique 2012, donc qui a été élaborée il y a quelques années, qui rentre pleinement en vigueur donc depuis le début de l'année 2013, pardon. Et donc pour tous les projets neufs, en fait, de construction neuve, tous les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2013 doivent être, en fait, d'un point de vue consommation d'énergie, considérés comme de basse consommation, BBC, bâtiment basse consommation. Et donc dans ce cadre-là, il y a des exigences, en fait, de moyens, mais aussi de résultats. Parce qu'en fait, il y a un test d'étanchéité à l'air qui va devoir être subi par toutes ces constructions neuves et qui va venir un petit peu sanctionner la qualité, la performance finale du bâtiment. Alors nous, on le fait, ça peut se faire tout à fait dans l'ancien, dans une démarche de rénovation. Nous, on le fait sur nos locaux, qui sont des locaux au pied du polygone qui ont quelques années déjà. Donc effectivement, il y aura sans doute des choses... c'est pas forcément terrible d'un point de vue performance énergétique, mais bon, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'être pédagogique et de montrer un petit peu en quoi ça consiste, peut-être un test d'étanchéité à l'air, bon, parce que quelqu'un qui entendrait ça, qui n'est pas forcément dans la partie. En gros, on met l'habitat en dépression. On met le logement qu'on veut tester en dépression. Ça se passe avec une espèce de porte qu'on appelle la porte soufflante, qui vient adhérer sur sur une porte classique vers l'extérieur. Il y a un ventilateur à l'intérieur et le ventilateur fonctionne, aspire en fait l'air de l'intérieur vers l'extérieur et met en fait le logement en dépression. Et ainsi, vu qu'il est en dépression, il y a tout un tas de petites fuites d'air qui vont se manifester et l'air va rentrer par où il peut, à savoir par les fuites, sous les fenêtres, sous les bas de porte, par les défauts de jonction, des câbles. Enfin, il y a une multitude d'entrées d'air possibles. Et donc, l'idée, ça va être de les visualiser. Alors, ce soir, on aura une caméra thermique qui permettra comme ça d'avoir voilà, l'air froid qui va rentrer, qui va lécher les dessous de porte.
Efficace que mouiller le doigt et le balader voilà. le long des joints de la fenêtre.
On va le voir en vrai. Une caméra thermique, hein, c'est un peu la vision de Terminator, hein, pour ceux qui voient à quoi je fais allusion. Donc
de Predator.
Predator, pardon, oui, tout à fait, c'est Predator, autant pour moi. Donc on voit effectivement en rouge tout ce qui est plutôt chaud, plutôt en bleu tout ce qui est plutôt froid, et donc on va le visualiser. Et on aura aussi un petit appareil qui fait de la fumée, et là encore, bah, voilà, plutôt que se balader la main le long des plaintes, bah, là on verra directement la fumée va bouger, bah, ça va, tout ça va être rendu visible. Et donc l'idée, bah, sûr que c'est pédagogique, hein, c'est pour montrer un peu ce qui se passe, parce que ça, plus concrètement, pardon, pour les gens qui nous écoutent, vous habitez un appartement un petit peu haut, plutôt au nord, voilà, un jour où il fait un peu froid, il y a du vent, vous sentez au niveau des prises électriques, au niveau des, voilà, sous les fenêtres, les portes, l'air qui rentre, bah ça c'est des fuites d'air, clairement. Mm-hmm. Et donc là, on le sent très concrètement. Et donc l'idée sur la basse consommation, et alors encore pour les projets de rénovation aussi, et bah, quand on commence à isoler, à améliorer la ventilation, à améliorer le chauffage, et bah, toutes ces petites fuites d'air là, qui étaient un peu noyées, entre guillemets, dans le reste des consommations avant, dès qu'on diminue la consommation, qu'on devient un peu plus pointilleux sur plein de sujets, et ben ces fuites-là, elles commencent à apparaître, elles prennent des proportions parfois importantes. Ça peut être 5, 10, 15, 20% parfois des consommations d'énergie, simplement là-dessus, plus l'inconfort lié. Hein, parce que quand vous avez un petit courant d'air froid qui vous passe dans la nuque, c'est jamais très agréable. Et donc, voilà, comment y remédier ? Il y a des aspects techniques, hein, des solutions avec des scotchs, avec tout un tas de silicone ou autre. Enfin, voilà, je ne rentre pas forcément dans le détail là, mais on exposera un petit peu toutes ces solutions-là, parce que clairement, c'est le futur de l'habitat performant. Clairement, et puis les rénovations qui vont arriver maintenant, on va les faire basse consommation, donc autant se préoccuper de tout ça.
Alors c'est vrai que pour autant un habitat n'a pas vocation à être aussi étanche qu'un bocal de confiture, puisqu'il faut quand même renouveler un petit peu l'air, sauf que l'idée, si je comprends bien, c'est de se dire l'air est recyclé par des systèmes qui sont bien identifiés, il n'est pas question qu'il soit recyclé par des endroits qu'on n'a pas identifiés, dont on ne sait rien, etc. Tout ça peut-être pour mieux normaliser aussi les schémas de construction.
Alors exactement. Et vous faites bien effectivement de distinguer la ventilation par le type VMC que tout le monde connaît, avec les aérations. Voilà, donc elles font leur job, entre guillemets. On leur demande quoi ? C'est de renouveler l'air du logement pour assainir le logement, évacuer l'humidité, les polluants intérieurs et tout ça, pas de souci. Par contre, effectivement, en parallèle, il ne faut pas que viennent s'ajouter à ce renouvellement d'air qu'on a calibré, qui est programmé pour ventiler, des fuites qui viennent finalement surventiler en fait le logement. Alors voilà, après en demi-saison, en été, à la rigueur, c'est pas très grave parce que ça va surventiler, à la rigueur, ça peut que assainir l'air du logement. Quoi qu'en été, quand il fait chaud, faire rentrer de l'air à 35 degrés dans un logement qui est à 25, on va plutôt le réchauffer. Donc on a tout intérêt à limiter aussi ces entrées d'air-là. Mais par contre, effectivement, l'hiver, voilà, le job de la ventilation, c'est de ventiler. On va pas rajouter en fait de la ventilation supplémentaire. Je dirais que si l'énergie coûtait rien et qu'il n'y avait pas d'impact environnemental au niveau de la consommation d'énergie, pourquoi pas à la rigueur, mais sauf que là il y a le problème de confort, et puis bien sûr qui dit consommation d'énergie dit coût, et puis dit aussi impact environnemental. On sait que toute l'énergie qui est produite, que ce soit d'une façon, même les énergies renouvelables ont un impact, que ce soit visuel ou en termes de consommation de matière pour fabriquer des panneaux ou que sais-je. Donc voilà, moins on consomme d'énergie, mieux on se porte.
Alors ce soir, comme à chaque Café Climat, les animateurs de l'Agence locale de l'énergie seront accompagnés d'un professionnel du secteur. Qui sera présent ce soir justement pour...
Alors, l'entreprise qui intervient ce soir avec nous, c'est Enexco, qui sont spécialisés vraiment dans ces tests-là, déperdition thermique, fuite thermique à la caméra thermique. Ils ont déjà mis en dépression des bâtiments de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Donc vraiment, ils sont très rodés à ces pratiques-là. Et donc, ils vont venir, juste pour faire aussi un aparté sur la ventilation, ce soir, on va boucher les VMC avec du scotch pour justement pas faire rentrer l'air par la VMC, parce que ce sera son boulot une fois qu'on aura déscotché. Donc on fera vraiment le distinguo entre ventilation et fuite d'air.
Et ça fera, un audit gratuit finalement pour le bâtiment dont vous êtes les locataires, j'imagine. C'est le 26e Café Climat, c'est ce soir de 18h30 à 20h. Le 27e, c'est dans une paire de mois.
Ce sera au mois d'avril, effectivement, dans deux petits mois. Et on va aborder là du coup justement l'aspect réglementaire. On évoquait la réglementation thermique là qui vient de s'appliquer, donc il y aura un impact pour les projets de construction et les gens qui sont candidats à la construction. Ils ont pas mal de choses à voir, de nouveautés en fait qui vont s'inscrire dans le permis de construire. Alors bon, c'est un peu ciblé, mais l'idée c'est que tout le monde soit bien au courant des nouveautés et l'impact que ça va avoir en termes de coûts, en termes de temps supplémentaire sur la construction du permis de construire, enfin sur le dépôt du permis de construire.
Le rendez-vous est pris. Si vous ne le savez pas encore, c'est 2 places Paul Beck à Montpellier, juste derrière les échelles de la ville. Et puis sur internet, évidemment, ale-montpellier.org. Voilà, tout est dit. Nicolas, merci.
Merci à vous.
Et puis très bon 26e Café Climat.
Merci.
Au revoir. Ladies and gentlemen.